C'est une histoire d'émancipation, celle d'une jeune fille de 18 ans que vous avez peut-être vue sur une photo ici et là, sur internet, dans les médias, on la voit sourire de toutes ses dents, jupe, casquette, sweatshirt aux couleurs du Canada. Le jour où elle est arrivée à Toronto et que l'a accueillie la ministre des Affaires étrangères de là-bas. Le seul pays qui m'ait vraiment aidé est le Canada, les autres ont eu peur et sont des lâches, a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Ces réseaux qui ont fait d'elle un symbole, une exception, un exemple à défendre au nom des droits humains et des droits des femmes. Ces réseaux qui lui ont permis de communiquer depuis la zone de transit de l'aéroport de Bangkok où elle avait fui, où elle était coincée en attendant d'être fixée sur son sort, être accueillie dans un autre pays ou rentrer chez elle. Elle qui était parvenue à fuir sa famille et une vision du monde qui la condamnait à être soumise aux hommes. Elle qui a raconté la violence de son père et de son frère lorsqu'elle s'est coupé les cheveux, qu'elle a refusé de prier et de porter un hijab. Elle qui risquait sa vie si on l'avait rapatriée. Elle s'appelle Raaf Mohamed Alkoun, elle a 18 ans et quelque part au Canada aujourd'hui, elle est réfugiée.
Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui s'intéresse aux histoires des autres, académiciennes, romancières, mais aussi biographes. C'est pour une fois un peu de son histoire à elle qu'elle raconte dans Mes vies secrètes, à travers celles d'artistes comme Romain Gary, Berthe Morisot, Camille Claudel, Gala, Clara Malraux, dont elle a si bien exploré les mystères dans des biographies passées. Bonjour Dominique Bonhomme.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, je sais que comme moi, l'histoire de cette jeune fille saoudienne, Raaf Mohamed Alkoun, vous a beaucoup marqué.
Oui, j'ai été bouleversée par cette histoire d'une jeune fille de 18 ans qui est malheureuse et qui brise les chaînes. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à briser les chaînes. On est entravé, comme disait Colette. Et pouvoir justement se libérer, c'est extraordinaire, surtout à cet âge-là, dans l'adolescence, où tout pèse, où tout est difficile. Et cette espèce d'envolée de cette jeune fille est inouïe et très romanesque, évidemment.
Cette histoire, elle nous dit aussi quelque chose d'une certaine condition féminine. Selon vous, à quels obstacles une femme se trouve-t-elle confrontée pour la seule et simple raison qu'elle est une femme, Dominique?
Il y a de nombreux obstacles. Il y a aussi quelques avantages, il ne faut pas exagérer, à être une femme, surtout dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, la femme peut faire des études, elle vote, elle est citoyenne à part entière. On va pas pleurer non plus sur le sort de la femme, en tout cas dans nos sociétés. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. L'introduction du féminin dans le vocabulaire, notamment, c'est un de mes dadas, on va dire. Et puis, beaucoup d'autres choses.
Vous étiez une des rares académiciennes à être favorable au débat sur l'écriture.
Oui, l'Académie française vraiment fait de grands pas en avant vers la modernité, introduit son dictionnaire sur la toile, on va pouvoir le consulter gratuitement d'ici quelques jours. Et du point de vue de la féminisation, c'est vrai, elle progresse aussi. Jusqu'à maintenant, on devait dire tous les métiers au masculin, mais j'ai l'espoir qu'on pourra mettre un petit E à la fin de certains mots.
Cette question du féminin, Dominique Bonnat, elle est centrale dans votre œuvre. Pour autant, dans Mes vies secrètes, vous nous mettez en garde sur le fait qu'on aurait tort de lire l'œuvre d'une artiste femme à travers le seul prisme du féminin. En quoi la catégorie du féminin est-elle, dans certains cas pour vous, synonyme d'enfermement? C'est le mot que vous utilisez en parlant notamment de la peintre Berthe Morisot.
Oui, peut-être parce que justement je me suis toujours un peu projetée quand même dans les personnages que je traite, ces personnages du 19e siècle ou du début du 20e siècle, ces personnages de femmes ont vraiment des combats à livrer parce que elles vivent dans un monde d'hommes où il est très difficile d'affirmer un talent au féminin. Aujourd'hui, c'est différent, mais il ne reste pas moins quelques difficultés, et donc dans ce miroir des personnages d'autrefois, on arrive à trouver quelques réponses pour aujourd'hui.
Mais l'enfermement, en quoi est-ce qu'on peut être enfermé? Ça vous est arrivé à vous, par exemple, de vous sentir réduite à votre sexe, de sentir que votre travail n'était pas jugé, discuté, appréhendé comme celui d'un écrivain, comme un autre, mais d'abord comme celui d'une femme qui écrit?
L'enfermement, c'est un thème très général. En fait, je crois que c'est notion d'enfermement, pour moi, je l'ai ressentie déjà dans l'enfance. C'est dans l'enfance qu'on est le plus enfermé, parce que l'enfant subit une autorité. Il est dans un milieu qu'il n'a pas choisi, dans une famille qu'il n'a pas choisi. Même si cette famille est aimante, pleine de tendresse, d'amour, il est malgré tout enfermé. Il y a des limites à son univers. Et je crois que ces limites, c'est le principal piège pour nous tous, encore aujourd'hui. On est toujours quelque part entre des murs. On est dans une catégorie sociale, catégorie mentale. Le grand rêve, c'est évidemment de casser les murs, de les détruire, de pouvoir pénétrer d'autres milieux, de comprendre les gens qu'on ne connaît pas. Enfin, ça m'a toujours fasciné, cette idée d'ouverture. Moi, j'aime bien les portes et les fenêtres ouvertes.
C'est intéressant quand même, je vais vous dire, de vous entendre, Dominique Bonnat, parler de vous de manière aussi directe, parce qu'en lisant votre livre, Mes vies secrètes, on se rend compte que c'est toujours à travers les vies des autres que vous vous êtes exprimé, que vous vous êtes raconté.
Peut-être parce que je suis une femme pudique. La pudeur n'a peut-être plus tellement cours aujourd'hui, mais c'est vrai, je suis une femme pudique. Je n'ai jamais parlé de moi, je parle assez peu de moi de manière générale. Et la biographie m'aidait finalement à, au fond, parler de moi à travers les autres. Je crois que quand on passe une vie à écrire la vie des autres, on n'est pas complètement absent. On est peut-être entre les lignes des livres. Et c'est cette entre-ligne que j'ai eu aujourd'hui envie de raconter dans mes vies secrètes. Et pour une fois, il a fallu que j'attende bien longtemps, mais pour une fois, je dis « je », en effet, dans ce livre.
Et vous découvrez, à travers les vies des autres, des facettes de votre personnalité que vous ignoriez. C'est ça aussi que vous racontez. Donnez-nous un exemple.
Alors, je ne sais pas si j'ignorais complètement, mais c'est vrai que je me suis projetée, en tout cas, dans des destinées, d'une part, extrêmement romanesques et surtout passionnées. Je crois que la passion, la ferveur, ce sont des ingrédients de la vie incontournables. Et j'ai choisi toujours de raconter des histoires de gens un peu irradiés qui ont mis du feu dans leur vie.
Et des artistes ? Dominique
toujours Bonnat. Des artistes.
Pourquoi des artistes? Pourquoi pas des reines de France, des personnalités politiques?
Oui, c'est vrai que je ne raconte pas des vies de rois ou de reines de France, parce que tout simplement, les artistes me semblent avoir une vision un peu différente de la vie. Ils savent raconter la vie, mais sans dogmatisme, sans trop de rationalité. Ils maintiennent le merveilleux en racontant nos vies. Et ça, j'aime énormément. C'est-à-dire, ils ne nous ramènent pas au quotidien. C'est ce quotidien qui souvent pèse, qui souvent encombre. Ils nous aident à avoir des ailes.
Là, c'est à la romancière que je m'adresse aussi, et à la biographe. Qu'est-ce que c'est un bon personnage pour vous, justement? Puisque l'artiste a l'air d'en être un.
Alors, peut-être, c'est un homme ou une femme qui vous fait rêver, mais pas au sens négatif du mot, parce que quelquefois on dit « oh, le rêve, tu n'as pas les pieds sur terre », on me dit souvent cela.
C'est un compliment,
mais
Dominique.
En vérité, oui, moi je le vois comme un compliment, parce que avoir trop les pieds sur terre peut être un handicap terrible. Il faut pouvoir un petit peu s'élever, il y a des êtres qui vous aident à vous élever, et je crois que les artistes vous aident à cela, ils vous rendent meilleur d'une certaine façon, parce que il vous demande de quitter un peu votre coquille de noix et de partir vers d'autres univers, sinon vers les étoiles.
Si je vous parle de personnages, c'est aussi parce que vous êtes romancière et que pour tout biographe, qu'il le veuille ou non, il y a toujours la tentation de la fiction, non ?
Toujours la tentation de la fiction, oui, parce que la fiction, c'est celle de la vie. On ne peut pas vivre comme ça, plaqué sur les réalités. On a besoin d'imaginer. Ce n'est pas pour rien qu'on a été pourvu de cette qualité maîtresse qui est l'imagination.
Oui, mais quand on est biographe.
Mais alors justement, le biographe s'interdit la fiction.
Il y a un code d'honneur.
Oui, c'est un code d'honneur. C'est une très belle expression. C'est un code d'honneur. On est dans la vérité. Au fond, le biographe raconte des sortes de romans, parce que les vies de Romain Gary, de Colette et même de Berthe Morisot sont des vies romanesques, mais ce sont des romans vrais, c'est-à-dire dont tous les ingrédients sont vérifiables, passés à l'aune de la documentation. Donc tout cela, évidemment, donne un nouveau vertige, c'est le vertige de la vérité.
Jamais vous n'avez eu envie, Dominique Bonnat, d'envoyer valser les codes? Jamais ces codes ne vous frustrent?
De temps en temps, je l'avoue. De temps en temps, on est frustré parce que ces vies, surtout, gardent leur mystère. Et c'est ce qui me fascine également dans la biographie. On pourrait se dire, le biographe va jusqu'au bout de son sujet, il va donner vraiment les grands secrets d'un être. Eh bien, pas du tout. On se rend compte, quand on écrit des biographies, et même en travaillant énormément, en accumulant les archives, on s'aperçoit que tous les êtres ont une part secrète, que le mystère fait partie de la vie, et la biographie est là aussi pour le rappeler.
Celle qui a des secrets dans cette émission et à qui on ne dicte pas les codes, qui se targue d'ailleurs d'être de toutes les générations, Dominique, c'est la culture. Et son actualité, non. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 22 janvier?
Chauffe la selle, chauffe, je n'irai pas plus loin.
Marcel ne chauffera plus, légende de l'accordéon. Marcel Azola est mort hier, il avait 91 ans, génie de l'impro, pionnier d'un accordéon qui swing. L'artiste avait accompagné les plus grands d'Edith Piaf à Barbara, en passant même par les Sex Pistols. Mais c'est avec Jacques Brel qu'il entre définitivement dans la légende en 1968, lors de l'enregistrement de la chanson Vesoul. Le grand Jacques, impressionné par les impros du musicien, lui lance ce fameux « Chauffe, Marcel, chauffe !» qu'on a tous entendu au moins une fois. Salut Marcel.
Quand Gwendal annonce le prochain chef est une femme chef, je me mets un petit peu à y croire quand même.
Vent de fraîcheur au Michelin, le célèbre petit guide rouge, bible de la gastronomie française, a dévoilé hier son palmarès d'étoiles 2019. Résultat, plus de femmes, plus de jeunes, plus d'audace. 11 chefs, 2 FE ont été promus et c'est inédit dans l'histoire du guide. Par ailleurs, c'est près de 68 restaurants qui obtiennent leur premier macaron cette année, dont la poule au pot de Jean-François Piège. Côté bad buzz, on citera le charismatique Marc Vera, le chef à chapeau qui, un an seulement après avoir obtenu sa 3e étoile, se voit rétrogradé à 2. And the cream come true, c'est officiel, une mini-tournée réunira les groupes de rap iconiques des années 90, le Wu-Tang, Public Enemy et De La Soul, baptisés en toute simplicité Gods of Rap, les dieux du rap. Le tour s'arrêtera pour 3 soirs à Londres, Manchester et Glasgow, les 10, 11 et 12 mai prochains. Il servira notamment à célébrer les 25 ans de l'album culte Enter the Wu-Tang et les 30 ans de It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back de Public Enemy, ouverture de la billetterie vendredi. Word up! Et Christine, the queen des Césars, l'actrice franco-britannique Christine Scott Thomas a été choisie par l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma pour être la présidente de la 44e cérémonie des Césars, qui se tiendra le 22 février. L'actrice aux 60 films ne devrait pas être particulièrement impressionnée par l'exercice. Dans le passé, elle a été 2 fois maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes, en 1999 et en 2010. You go, Christine. Et l'académicienne et biographe, romancière Dominique Bonnat, invitée de Boomerang ce matin pour Mes vies secrètes, une autobiographie racontée par le prisme de la vie d'artiste dont vous avez écrit la biographie, on l'a compris. Et parmi eux, je pense immédiatement à Romain Gary, dont vous dites, ce sont vos mots, qu'il a changé votre vie, qu'il a été pour vous un coup de foudre. Dominique, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, j'hésitais à employer le mot coup de foudre parce que c'est un peu banal aujourd'hui. Mais je l'emploie, oui, en pesant le mot coup de foudre, parce que j'ai lu Romain Gary quand j'avais 18 ans. Une amie m'avait offert les Racines du ciel. Et c'est vrai que c'est un moment de lecture inoubliable. Je suis entrée dans les Racines du ciel comme dans un royaume ensoleillé. Et tout d'un coup, il y avait cette voix de Romain Gary, chaude, une voix d'homme, qui racontait tout. Il racontait absolument les hommes, les femmes, les enfants, l'amour. Il me faisait rire, il me faisait pleurer. Enfin, j'ai trouvé ce moment extraordinaire. Et alors, évidemment, j'ai enchaîné les lectures sur Romain Gary. Et puis un jour, je me suis dit, mais qui est Romain Gary? Il se trouve qu'il était mort déjà quand j'ai décidé d'écrire sa biographie. Je ne l'ai jamais rencontré, en fait. J'ai écrit sa biographie sans l'avoir rencontré, disons, en chair et en os. Je ne l'avais vu que, ou rencontré vivant, que dans ses romans.
Par sa voix, je me suis abandonné à 18 ans à cette voix qui racontait des choses simples, les hommes, les femmes, les enfants, la nature, la vie. Ces phrases, sans fausse littérature, vastes comme un fleuve, m'emportaient dans leur flux. Elles soulevaient des orages, des tempêtes, mais savaient aussi être calmes, solaires, comme un jour d'été. À vous lire, Dominique Bonnat, la lecture de Romain Gary, c'est pour ainsi dire une expérience érotique.
Non. Une expérience érotique, oui, tout est érotique finalement dans cette vie. Oui, il y a une sensualité de la voix, c'est certain. On est plus ou moins sensible à une voix. Et cette voix de Romain Gary, qui est une voix étrange en même temps, parce qu'il mêle toutes les influences. C'est une voix à la fois française, internationale, un peu russe. Il roulait les airs à la russe. Oui, j'ai aimé cette voix.
Quelle jeune fille est-ce que vous étiez à l'âge de 18 ans?
Une jeune fille très timide, très réservée, qui aimait surtout lire.
Et qu'aviez-vous
passionnément lire.
Connu de la passion que vous découvriez avec tant de ferveur de Romain
Gary? Je ne connaissais rien à 18 ans de cette passion qu'il décrivait, mais je brûlais évidemment de connaître la passion.
Ça veut dire que la littérature est ici un modèle d'intelligibilité de la vie, Dominique Bonnat?
Oui, sans doute, sans doute. Oui, aborder la vie par quelqu'un d'autre surtout. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à vivre de plein pied. Je crois que c'est d'ailleurs un problème pour pas mal d'écrivains. On écrit parce qu'on peut pas vivre au premier degré, et on a besoin de l'écran, de l'écrit, pour comprendre ce qui nous arrive, pour comprendre où on va. Les mots aident.
Mais alors, au détour de quelques phrases, on vous découvre quand même quelque peu rebelle. Vous vous décrivez volontiers comme faisant partie d'une génération de Lolita pressée de vivre, la tête pleine de rythme, de rock et de blues, avec au cœur des maudits, des rebelles, Rimbaud, Verlaine et John Lennon.
J'aime beaucoup les rebelles, en fait. Peut-être parce que moi-même, j'ai une vie extrêmement sage, et puis maintenant, avec l'Académie française, encore cet aspect-là.
On vous a perdu, Dominique.
Mais le cœur, peut-être, autre que la façade sociale, ou simplement l'image que l'on peut donner, le cœur est différent. C'est comme ma voix, d'ailleurs. Ma voix, où on n'entend plus du tout mon accent d'origine, mon accent catalan, cet accent qu'avait tous les membres de ma famille, mon père, ma mère. Cet accent a disparu dans mes études au contact des jeunes filles parisiennes qui se moquaient de mon accent du Sud. Mais en fait, cet accent, il est quand même toujours là, mais il est dans mon cœur.
Je suis sûr qu'il revient.
Le cœur est passionnément du Sud.
Je suis sûr qu'il revient parfois.
Une pointe revient quand je suis plus au Sud, en effet, vers Perpignan.
Qu'est-ce qu'il reste de la Lolita dans l'académicienne que vous êtes aujourd'hui?
Écoutez, j'espère qu'il reste malgré tout quelques traits de caractère de la Lolita, peut-être. J'aimerais bien.
La liberté, l'idée de casser les murs.
Oui, j'aimerais bien aussi que la jeune fille n'ait pas disparu dans la femme que je suis devenue. Un peu d'innocence, un peu de naïveté, un peu de confiance aussi dans la vie.
De légèreté?
Voilà, la légèreté
de
mes 18 ans.
Évidemment, vous me connaissez. Juste après Un plaisir du mardi, Barbara, tiens, Gare de Lyon, vous êtes sur France Inter avec Dominique Bonnat, vous écoutez Boomerang et vous avez raison.
Je te téléphone près du métro Rome, Paris sous la pluie me lance et m'ennuie. La Seine est plus grise que la Tamise, ce ciel de brouillard me fout le cafard. Paris pleut toujours sur le Luxembourg, il y a d'autres jardins pour parler d'amour. Il y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Viens, fais tes bagages, on part en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon, sous la grande horloge, tu sais, près du portillon. Nous prendrons le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Viens voir l'Italie comme dans les chansons. Viens voir les fontaines, viens voir les pigeons. Viens me dire je t'aime comme tous ceux qui s'aiment à Capri la Belle en toute saison. Paris, mon Paris. Au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Juste à l'aube grise, demain c'est Venise. Chante barcarolle, j'irai en gondole. J'irai sans sourire au pont des soupirs pour parler d'amour à voix de velours. Taxi, menez-moi à la gare de Lyon. J'ai un rendez-vous près du portillon. Je vais prendre le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Passant par Vérone, derrière les créneaux, je vais voir le fantôme du beau Roméo. Et je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans les chansons. Taxi vite, ballon à la gare de Lyon.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle a ce maintien, vous savez, cette posture, ce port de tête qui inspire quand même le respect. Droite, fière, carré blond, impeccable, regard bleu, azur, haute pommette, l'air on ne peut plus sage. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle cache peut-être bien son jeu. Que sous ses airs, comme il faut, se cache une ancienne habituée du palace ou une fiefée roqueuse. On est quelque part entre Blondie et la comtesse de Ségur ce matin. Avec son petit pull bleu marine, Dominique Bonnat, invité de Boomerang pour Mes vies secrètes. Vous nous racontez, Dominique, vos rencontres avec les œuvres et les vies de grands artistes tels que Gary, on l'a dit, mais aussi Clara Malraux, Camille Claudel ou encore Stefan Zweig. Et ce que l'on découvre, c'est que le travail du biographe, c'est d'abord un travail d'investigation, effectivement, qui vous embarque sur les traces des lieux qu'ils ont fréquentés. Pourquoi les lieux sont-ils si importants dans votre démarche, à vous, de biographe ?
Peut-être parce que j'aime les lieux moi-même, j'aime les maisons, j'aime les jardins. Et donc je me suis plu à visiter les maisons et les jardins des personnages dont je racontais la vie. Et même si le temps a passé, même si les lieux ont changé, ils gardent toujours quelque chose de la présence de ces gens qui ont été là, qui ont été heureux ou malheureux dans ces lieux. Donc je suis allée évidemment voir la maison de Zweig à Salzbourg, je suis allée à Majorque pour voir une maison de vacances de Romain Gary, et je suis allée voir toutes les maisons de Colette qui sont des lieux enchanteurs.
Mais comment fait-on pour les faire parler, les lieux ?
Il faut les regarder. Il faut les regarder, il faut y vivre un peu, il faut se laisser imprégner par les images, par les parfums. Et les lieux parlent.
C'est peut-être à ce moment-là qu'on invente, qu'on imagine.
Il faut bien. Alors, il faut quand même dire que dans la biographie, c'est vrai qu'on n'invente rien et c'est vrai qu'on se documente et qu'on apporte des renseignements exacts sur les personnages. Mais l'imagination n'est pas quand même totalement au repos, parce que pour raconter la vie de quelqu'un, il faut pouvoir se détacher de soi, il faut pouvoir se projeter dans un autre temps, dans une autre époque, justement dans une autre géographie. Donc tout cela demande un peu d'imagination.
Mais vous, par exemple, en quoi les lieux où vous avez grandi, Dominique Bonnat, ont fait de vous l'auteur que vous êtes aujourd'hui ?
Je crois que mon enfance m'a beaucoup marqué, comme pour tout le monde sans doute, que ce sud natal qui a été le mien, j'ai grandi dans un mas, et j'appuie sur le S, dans un mas, au milieu des vignes.
Ça revient.
Oui, ça revient. Au milieu des abricotiers, des pêchers. Et c'était bon d'être là-bas. C'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir une famille très aimante. Et donc, ce cocon de l'enfance, je crois que j'ai épuisé une grande force, sans doute.
Comment se fait-il, pour autant, que vous ne soyez jamais parvenu à vous trouver une maison, à ne vous sentir jamais vraiment chez vous, nulle part ?
Peut-être parce que la maison de l'enfance était irremplaçable. Et que dans chaque maison que je cherche, partout, en France, dans le monde, au fond, je ne les trouve jamais. Mais à la hauteur de celle qui est restée pour moi la seule, la première.
Il y en a une dans laquelle vous auriez aimé habiter, je crois.
Alors oui, peut-être parmi toutes les maisons que j'ai visitées grâce à mes biographies, sans doute les maisons de Colette. Parce que Colette, c'est une femme, contrairement à ce qu'on a cru, parce qu'elle décrit surtout, c'est vrai, les jardins, les arbres, les oiseaux, le ciel, mais... C'est une femme d'intérieur. Elle passait sa vie à écrire, elle avait sa petite table, son porte-plume, et elle savait faire de chaque maison un nid.
C'est une maison de village, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans l'Yonne. Elle a gardé pour moi tous ses charmes. Elle est vieille, elle rassemble autour d'elle une petite cité de 13 ou 15 cents habitants, un jardin négligé. Elle m'a vu naître, elle m'a vu grandir. Ma chambre d'enfant n'y a connu aucun luxe et même pas un confort élémentaire. Mais je ne peux pas oublier que j'y ai élevé des chauves-souris, des chats, des chiens, des écureuils. Et j'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire et le certificat d'études. Mais vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non.
C'est le décor de sa série des Claudine Colette en 1950 qui évoquait sa maison natale de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette voix?
1950, c'est déjà la fin de la vie de Colette. Elle est déjà très vieille et elle regarde tout ça avec des yeux émerveillés. Ce que j'aime dans cette voix, c'est son accent bourguignon, très prononcé, cet accent que tout le monde s'efforce de perdre aujourd'hui au contact de Paris. Mais ce que j'aime aussi, c'est ce regard émerveillé de Colette. Colette, c'est une grande vivante, c'est une femme qui a aimé la vie, mais dans tous ces instants, les petits moments de la vie, à table, au lit, partout, dans les promenades, les plus simples dans la nature, il y a un émerveillement chez Colette qui n'a aimé, je crois, dans l'existence que la naissance du jour.
Vous lui avez consacré un livre qui s'appelle Colette et les siennes, Dominique Bonnat. Qu'est-ce qu'elle vous a appris à travers ses livres et à travers sa vie, à vous?
Elle m'a aidée à être joyeuse, je crois. Moi, je suis d'un tempérament plus mélancolique, toujours un peu inquiète. Et en vérité, Colette, qui pourtant est une femme qui a traversé beaucoup d'épreuves, qui a eu beaucoup de chagrin, qui a été souvent trahie, c'est une femme qui sait sourire à la vie.
Mais qui aimait profondément la vie.
Oui. Elle la savourait. D'ailleurs, on a dit que Colette écrivait avec les cinq sens, vous savez, avec l'ouïe, l'odorat, etc. Et je trouve qu'elle est un exemple. Quelquefois, quand je suis un peu trop triste, un peu trop morne, et que l'actualité est difficile, je pense à Colette. Et Colette, on le sait, le matin, elle se levait à l'aube, et elle tirait le rideau sur le jour, et là, il y avait ce sourire de Colette, un sourire qu'on retrouve dans chacun de ses livres.
Avez-vous vu le film, Dominique Bonnat, qui lui est
consacré? Je ne l'ai pas encore vu, mais je vais aller le voir, parce que l'actrice a l'air tellement extraordinaire.
Elle était à notre micro, vous pouvez la réécouter dans Boomerang, Keira Knightley, pour parler de Colette, justement, mais vous en parlez aussi bien qu'elle, je dois le dire. Qu'est-ce qui vous fait aimer la vie, en fin de compte, aujourd'hui?
Le soleil, les enfants, la nature de manière générale, l'amitié, beaucoup de choses qui font aimer la vie.
La littérature aussi?
Évidemment.
Vous lisez tout le temps?
Je lis tout le temps, surtout des romans.
C'est vrai? Et des biographies, vous les lisez?
J'en lis aussi, bien sûr, oui.
On s'imprègne de la biographie des autres, de l'art de la biographie des autres?
Ah oui. J'aime lire des biographies, d'abord des biographies anciennes aussi, les biographies de Stefan Zweig, par exemple, les biographies d'André Mauroy sont des très très belles biographies. Ils ont été des maîtres dans ce genre littéraire. Oui, et aujourd'hui, il y a de très très belles biographies. Alors, il y a les biographies universitaires qui pèsent un peu lourd, mais qui sont vraiment des prodiges de travail et des sortes de performances. Et puis, il y a la biographie portrait, la biographie récit. C'est plutôt là que j'essaie d'écrire, c'est-à-dire la biographie qui ressuscite un personnage, qui le ramène à la vie, qui le tire de ce passé un peu lourd et où les êtres se dispersent.
Et qui fait acte de littérature aussi.
Bon, j'espère.
C'est un texte sur la littérature, sur la lecture, sur l'écriture que j'aimerais que vous nous lisiez ce matin. Vous l'avez écrit pour nous, ce texte, pour cette émission. On vous écoute.
Lire, écrire. On dit souvent que c'est une évasion, une manière de se retrancher, de s'abstraire du monde, de le fuir. On lit, on écrit pour échapper aux lourdeurs, aux frustrations de la vie quotidienne, si prosaïque et banale et difficile à affronter. Les écrivains ne seraient-ils que d'incorrigibles rêveurs? La littérature n'est pas seulement une échappée. Elle ne tient pas tout entière dans le rêve, dans l'illusion. Elle offre au contraire une possibilité d'union, de communion. Elle ouvre des portes, des fenêtres, elle fait entrer à flot l'air du dehors. Elle permet l'échange, ce beau mot d'un poète. Aujourd'hui, les gens ne se comprennent plus. Le passé est aboli, le futur obscur, les repères manquent, tout comme les perspectives. Chacun est enfermé dans sa catégorie, et chacune aussi. Les portes sont verrouillées. On s'apprête à un grand débat. On va beaucoup parler, les mots vont déferler. Les gens se comprendront-ils mieux pour autant? La littérature n'instaure ni débat, ni dialogue, mais elle crée des liens. On y rencontre tous les âges, tous les milieux, tous les tempéraments, toutes les cultures. Il y en elle de la douceur ou de la violence, de la légèreté ou de la colère, du raffinement, de la brutalité, et parfois tout cela à la fois dans un même livre. Mais j'en fais chaque fois la même expérience, signée d'un seul, elle parle au nom de tous. Ce que j'aime en elle, c'est le regard particulier, c'est la voix qu'elle nous offre et qu'on peut épouser le temps d'une traversée. Un regard, une voix qui agrandisse l'espace et réchauffe le cœur. Elle ne nous rend pas forcément meilleurs, mais elle a l'immense avantage de nous rendre moins seuls. Ni forum, ni tribunal, la littérature, c'est une planche de salut sur un océan d'incertitude où, sans elle, je me noie.
À quel moment, Dominique Bonnat, avez-vous senti que vous étiez sur le point de vous noyer?
Beaucoup de moments, en fait. Le matin, c'est toujours un peu difficile, le matin. Mais il y a beaucoup d'amour autour de moi et les enfants, tout ça, c'est magnifique.
Vous avez l'exemple d'un livre qui vous a sauvé? Parce que c'est ce que vous nous dites, somme toute, dans ce texte.
Alors, beaucoup de livres me sauvent. En fait, je lis pour cela, pour trouver non seulement consolation, amitié, réconfort, mais plus que tout, une lumière. Parce qu'on est toujours plus ou moins dans la nuit, on ne sait pas très bien où on va, on ne sait pas répondre à toutes les questions. Et dans les livres, il y a une partie de ces réponses.
S'il fallait en citer un.
Il y a
un.
Une lumière. Ou si vous me demandez d'en citer un, c'est tantôt Romain Gary, c'est tantôt Colette. Bon, un seul, je ne vais pas revenir aux racines du ciel, mais je dirais alors La naissance du jour de Colette.
Pourquoi?
Justement parce que il y a une chaleur, il y a une main tendue, et puis il y a ce sourire qui fait un bien fou.
On va le lire, ou on va le relire grâce à vous, Dominique Bonnat. Colette, merci infiniment, en tout cas pour ce texte émouvant. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Mes vies secrètes, votre nouveau livre, est publié chez Gallimard. J'invite également les auditeurs à se replonger dans votre biographie de Romain Gary, grand prix de la biographie de l'Académie française il y a 32 ans, mais aussi dans Colette et les siennes, ou encore dans vos romans, Les heures volées, Malika ou le manuscrit de Port-Eben. Tout de suite les médias, Sonia De Villers.